masque et la plume. Deuxième masque, depuis la 79e édition du Festival d'Avignon, avec une héroïne de 75 ans, une jeune fille partie sur la planète Mars, ou encore un texte de 480 avant Jésus-Christ. Du in et du off, où l'on constate qu'un bon nombre de spectacles parlent de la famille pour raconter l'intime et la société tout entière. Un père et sa fille, dans La distance de Thiago Rodriguez, une mère qui n'a pas envie de l'être, dans Annette de Clémentine Colpin, des comédiens et leur grand-mère dans La lettre de Milo Rau, un quadragénaire qui veut faire un don de sperme dans Les paillettes de leur vie de Michael Delis. Pour débattre de ces spectacles créés à Avignon et dont beaucoup se joueront ailleurs, ils et elles sont installés sur la scène du cloître Saint-Louis. J'ai nommé Laurent Goumard de Libération et de France Inter, Sandrine Blanchard du journal Le Monde, Pierre Lesquelaine de IO Gazette et du magazine en ligne Détective Sauvage, et Fabienne Pascot de Télérama, qui a mis des plumes à ses oreilles pour aujourd'hui. Bonjour, bienvenue. Le masque au Festival d'Avignon 2025, deuxième. C'est loin, c'est chaud, mais c'est bon, m'écrit Jules sur Instagram pour raconter sa première expérience de festivalier à Avignon. C'est loin parce que la ville est à une demi-heure en bus, c'est chaud, vous savez pourquoi, inutile que je développe la météo, et c'est bon, rien que de voir tous ces gens remplir les théâtres, tous ces gens qui ont besoin de fiction ou qu'on leur parle du monde autrement que dans les infos. Je vis à Angers, je suis en contrat d'alternance, et je suis de tous ces gens qui ont besoin de théâtre. C'est dingue. Mais c'est du concret. Post-scriptum, allez voir Derrière, c'est le titre d'un spectacle au Théâtre 11, ça coûte 23 euros, mais ça les vaut. Louis Bourgoin nous écrit pour la première fois pour défendre, je cite, « un spectacle qui est politique sans chercher à l'être, parce qu'il nous fait oublier notre quotidien et ses tracas en l'espace de 3 heures ». Cet auditeur est allé voir « L'hôtel du libre-échange » de Georges Feydeau, mis en scène par Stanislas Nordet. Vous en avez débattu lors de la dernière tribune, et à l'exception de Sandrine Blanchard, Louis Bourgoin estime que vous ne l'avez pas jugé à sa juste valeur. Selon lui, c'est un grand spectacle populaire, avec une salle qui rit à l'unisson, du plus vieux papy jusqu'au jeune collégien venu par obligation. Pour rappel, l'hôtel du libre-échange dans une mise en scène de Stanislas Nordet est en tournée dans toute la France, y compris en 2026. Les prochaines représentations ont lieu à la Maison de la Culture de Grenoble, les 25 et 26 septembre. Retour à Avignon avec ce message Instagram de Marc. Le 9 juillet, j'ai assisté à la soirée hommage pour l'écrivain algérien Boualem Sansal, emprisonné depuis plus de 7 mois en Algérie et condamné en appel à 5 ans de prison ferme. Il y avait Laura Adler, Thiago Rodriguez ou Patrick Boucheron pour lire ses textes. À la fin, une femme s'est levée pour dire « Une lecture, c'est bien, mais il faut agir. Battons-nous, libération !» pour Boualem Sansal, parce que là, on fait ça gentiment entre nous. Cet entre nous, je n'en suis pas, mais c'est vrai que nous n'étions pas nombreux ce soir-là, conclut Louis. Pour finir, je vous signale que vous pouvez soutenir la libération de Boualem Sansal en apportant une contribution financière à la Société internationale de soutien à l'écrivain algérien, créée au moment de son arrestation. Le lien est sur le site des éditions Gallimard. Et on commence avec la lettre du metteur en scène suisse Milo Rau. C'est une commande que le Festival d'Avignon a passée à Milo Rau dans le cadre d'une collection dont l'ambition est de créer un théâtre populaire qui peut se jouer partout, y compris dans des lieux qui ne sont pas dédiés au théâtre. Donc pendant le festival, la lettre se joue dans 15 lieux différents, dans la cour du château d'Aramon ou à la salle des fêtes de Lille-sur-la-Sorgue, par exemple. Le spectacle est itinérant. Deux jeunes comédiens, un homme et une femme, s'apprêtent à jouer le rôle qui comptent dans leur vie professionnelle autant que personnelle. Ils le présentent, expliquent pourquoi et comment ce rôle a décidé de leur vocation de comédien. Et pour l'un comme pour l'autre, leur grand-mère y est pour beaucoup. Lui est flamand, il se prénomme Arne et veut jouer Treplev dans La Mouette de Tchekhov. Elle s'appelle Olga et elle a toujours rêvé d'interpréter Jeanne d'Arc. Olga est noire, fille d'un Camerounais et d'une réunionnaise installée à Orléans. Olga et Arne sont les vrais prénoms des comédiens, Olga Mouac et Arne de Trémerie. Le spectacle est fait d'aller-retour entre la fiction et la réalité, entre la vie et le jeu. Et parfois, les comédiens s'adressent directement au public, comme dans un stand-up, et sollicitent même des spectateurs pour lire quelques répliques. Laurent.
Donc c'est une petite forme, c'est un spectacle itinérant. Et pour jouer la petite forme et la proximité avec le public, il y a le côté gadget du style « je file deux ou trois répliques à des gens qui sont spectateurs et ça fera la blague ». On pourrait penser que c'est sympathique. Je n'ai pas accès aux sympathiques, je crois. Je trouve ça, infantilisant. Infantilisant. Je trouve ça guignol. Et surtout, je trouve que c'est purement gadget de trouver cette forme-là, sous prétexte que c'est une petite forme et un spectacle itinérant.
Mais c'est un spectacle drôle et fantaisiste. On n'en a pas si souvent au Festival d'Avignon.
Il n'y a que ça cette année. Hein. Pardon, mais...
De quoi ?
Que des spectacles drôles et sympas.
Exactement. Avec des gens qui écrivent les lettres. Mais oui.
Oh, bon, alors là, c'est la meilleure.
On va voir ça. Alors, le texte, qu'est-ce que ça raconte ? Ça raconte l'histoire de deux acteurs, un acteur et une actrice, chacun hanté par une grande figure. La grand-mère ou la mère, je ne sais même plus laquelle c'était, s'appelle Nina. Donc, bien sûr, on va parler de la mouette. Et puis, l'autre actrice est fascinée par la personnalité de Jeanne d'Arc, parce que je crois qu'elle habite dans la même ville. Au bout d'un moment...
Et parce que sa grand-mère entendait des voix. Et qu'elle a brûlé dans une maison au Cameroun.
Et ça papote pendant absolument une heure dix. Et moi, je me suis dit, pendant ce temps-là, à un moment donné, la vie des autres, la vie des gens, c'est pas forcément intéressant. Au théâtre. Et alors, c'est des considérations. Et est-ce que ton papa t'a aimé ? Est-ce que tes parents viennent voir la pièce que tu joues ? Est-ce qu'ils aiment le théâtre ? Non, bien sûr, non. Et alors, le summum, pour montrer quand même qu'on en a sous le capot, on invite deux voix qui vont être des voix magnifiques du théâtre français. Donc,
Alvaro
et Isabelle Huppert. Alors, c'est vraiment une joie de les entendre, mais vraiment une souffrance de les entendre dans un tel dispositif.
Elle parle si peu, quand on ne sait pas qui c'est... Alors là, pour le coup,
ah bah,
c'est un
quand
gadget.
On ne sait pas qui c'est, ils le disent.
Alors là, vous ne vous intéressez qu'au gadget. Excusez-moi, Laurent.
Alors, non, mais... Excusez-moi. ça veut dire qu'elle est très fâchée.
Oui, il y a une distance qui s'est installée, là.
Une distance dont on parlera tout à l'heure. Mais tout le monde les reconnaît puisqu'ils mentionnent leur voix, justement comme une marque bien des... C'est Anne Alvaro qui vient de dire quelque chose, elle est formidable. C'est Isabelle Huppert qui vient de dire quelque chose.
Mais ça, c'est dit dans le texte. Oui, mais rien par rapport au projet.
Je vais inverser la phrase. Le projet, c'est rien.
Fabienne.
Moi, je trouve que le projet est passionnant parce que c'est montrer des petites formes avec des acteurs, des artistes qui s'intéressent sur leur vocation, sur comment elle est venue. Et au début, ils n'ont effectivement rien à voir entre le blond et la brune. Ils n'ont rien à voir. Et quand même, via leur grand-mère, ils vont trouver des origines communes à leur art. Et donc, tout ce qui pouvait être composite, un peu drôle, un peu des petites réflexions sur Tchekhov, sur le théâtre, sur les répétitions, sur la vie, sur la mort, sur la séparation, comme ça égrené, mais avec finesse par Milorau, qui a écrit une pièce avec eux, donc on sent comme un chœur, un trio, il montre que c'est ensemble qu'on fait du théâtre, avec les comédiens, avec le metteur en scène, et rien que pour cette démonstration-là, je trouve ça passionnant.
Fabienne a pris l'initiative de dire Milorau, c'est comme ça que nous dirons désormais Milorau, oui. Metteur en scène suisse donc de ce spectacle intitulé La Lettre. Sandrine ?
En fait, le problème de ce spectacle, pour moi, c'est que le dispositif, il est complètement hybride. C'est-à-dire qu'il le dit d'ailleurs dans la... Comment on appelle ça
La feuille
de scène. Il dit qu'il a voulu imaginer un stand-up de haut niveau. Et il utilise le stand-up parce que comme c'est un spectacle itinérant et qu'il faut s'adresser à tous les publics, ben voilà, du coup, on se dit, tiens, le stand-up. Sauf qu'en fait, il ne va pas jusqu'au bout de sa démarche. Il fait un espèce de stand-up qui, pour moi, est un peu un télo parce que, justement, il fait une forme hybride qui mélange une forme de théâtre participatif et on les voit jouer et fabriquer du théâtre ensemble. Moi, il y a quand même une chose qui m'a touchée, c'est que je trouve que ces deux jeunes fonctionnent très très bien ensemble et que j'ai eu quand même deux bouffées d'émotions. Il y a deux moments très très forts.
Ce qui sur 1h15 est déjà pas si mal.
C'est déjà pas si mal parce que c'est aussi... la lettre, c'est aussi montrer que... c'est un peu bateau de dire ça, mais que la scène, c'est le lieu de tous les possibles. Et donc là, grâce à l'intelligence artificielle, il fait revivre la voix de sa grand-mère, que je trouve vraiment, c'est magnifique. Vous voyez, j'ai été tellement émue que j'en suis émue à en parler. Et puis, il y a aussi cet appel, quand Olga appelle sa mère pour essayer de comprendre pourquoi elle ne va jamais la voir sur scène. Et j'ai trouvé que ce moment était d'une émotion folle. Et d'ailleurs, sa mère, elle dit, parfois au théâtre, je ne comprends rien. Parfois, je me sens stupide. Après,
C'est surécrit cette partie, je crois que c'est la pire.
Ah ben moi, c'est ma préférée, Laurent.
C'est émouvant. C'est banal, c'est quotidien.
Et Pierre, toi, as-tu apprécié cette fantaisie ?
Ça va être deux contre deux, parce que c'est un peu dur de juger ce spectacle, parce que Milo Rao est un immense metteur en scène. Moi, j'ai aimé énormément de spectacles de Milo Rao. Là, on juge un spectacle mineur, voire un peu la collection Vacances, drôle et touchant de Milo Rao. Donc forcément, c'est difficile à juger. On retrouve quand même son exigence, à savoir, c'est sa phrase très belle, ne pas représenter le réel, mais rendre la représentation réelle. Et là, en l'occurrence, rendre le théâtre du répertoire réel en... le joignant à la vie de celles et ceux qui l'interprètent. Sauf que je suis d'accord avec Laurent, je trouve que ça fait partie quand même des spectacles, on en voit quelques-uns dans ce festival, qui misent beaucoup sur le capital de sympathie des interprètes, et c'est pas avec ça qu'on fait forcément du théâtre. Et puis, je suis pas
mais
d'accord avec toi.
Il n'était pas gagné d'avance.
Je suis pas d'accord avec toi.
Il n'était pas gagné d'avance.
C'est pas ce que je dis, Fabienne. C'est pas parce qu'il a de faire des tragédies sur le monde tout le temps. Il a le droit de faire des miniatures aussi.
Oui, enfin, moi je trouve que le projet de démocratisation, il est raté, parce que, comme par hasard, on va vers le public, comme disait Villard, mais on va vers le public avec des matériaux de théâtreux, en fait. La mouette, comme ça, si devait parler à tout le monde. Et puis ce spectacle est une espèce, en fait, d'allégorie du théâtre de Milo Rao. Le discours de Treplev contre le théâtre bourgeois, c'est la préfiguration du théâtre de Milo Rao. Et là, pour moi, c'est un spectacle qui n'est pas si anti-bourgeois qu'il en a l'air, mais plutôt très complaisant, je trouve.
La lettre de Milo Rao se joue à Avignon dans un lieu différent chaque soir, donc jusqu'au 26 juillet. Et le spectacle sera aussi au Festival d'Aurillac du 20 au 23 août, puis au Théâtre Sylvia Montfort à Paris du 28 au 31 janvier, ou encore à la Manufacture à Nancy du 20 au 22 mars. On passe dans le Festival Off avec Annette, pièce conçue par la metteuse en scène belge Clémentine Colpin. Annette, c'est Annette Bossard, une femme de 75 ans, bel et bien réel, puisque c'est après l'avoir rencontré et écouté que Clémentine Colpin a voulu ce spectacle. Annette en est l'héroïne magnifique sur scène, donc elle joue son propre rôle, entourée de deux comédiennes et de deux danseurs, à qui elle n'a rien à envier pour ce qui concerne et l'aisance et la présence. La pièce, elle récite sa vie de femme, des années 50 à aujourd'hui, entre maternité non désirée, bonheur de porter des dessous de soi, ou fiesta dans un club gay de Bruxelles. C'est l'histoire d'une femme qui n'a cessé de déjouer les attentes pour inventer sa vie à elle. Et comme elle le dit, mon plan à 50 ans, c'était de m'offrir une vie de rêve. Et Pierre Lesquelaine, lui, a quoi, 34 ? Combien ?
31.
Et t'as la parole.
J'ai beaucoup aimé ce spectacle qui nous prouve qu'on peut être complètement has-been et complètement been en même temps. C'est comme ça qu'elle le dit. Parce que c'est une vieille dame qui ne cesse de se souvenir et dont les souvenirs ont autant de consistance que le moment présent qu'elle vit. Et puis c'est un spectacle complètement théâtral qui explore beaucoup de possibilités du théâtre et qui incarne une idée que je n'avais jamais entendue, à savoir qu'il n'y a qu'au théâtre qu'on peut vivre sa mort, c'est-à-dire donner une forme satisfaisante à sa mort. Et puis, il y a cette biographie qui est assez proche de certaines mémoires comme celle de Simone de Beauvoir, c'est-à-dire c'est une biographie par les événements physiques de l'existence. Annette, elle lutte avant tout contre l'inertie, contre la pesanteur des choses, la machine à laver, la bague de mariage, l'enfant qu'on porte en soi. Ma petite réserve, c'est sur la longueur du spectacle. Je trouve qu'au début, c'est un vrai feu d'artifice et je trouve que cette inertie, le spectacle finit par la gagner d'une certaine manière. Je trouve que au bout d'un moment, on a un peu compris la grammaire du spectacle, mais néanmoins, il faut vraiment aller découvrir ce travail.
Pour ma part, je n'ai pas vu le temps passer. J'aurais même aimé que ça dure. Sandrine,
Moi, je trouvais qu'il y a un tout petit quart d'heure en trop, mais vraiment, c'est pas grand-chose. Et puis, c'est pas très important parce que c'est Annette. On peut que l'aimer. Moi, je l'ai adorée. J'ai dévoré sa vie comme on tourne les pages d'un roman qu'on adore. On est hyper attaché à elle. Je trouve que la mise en scène est d'une gaieté et d'une inventivité folle. Enfin, moi, je suis rentrée dedans, mais dès les premières secondes. Et voilà, on aurait tous envie de continuer la discussion avec elle. Elle dit, il faut toujours être vrai, et elle l'est entièrement, fondamentalement. Ça procure une joie, ce spectacle, une joie de se dire que, parce qu'on voit défiler toutes les décennies, ça nous montre aussi l'histoire avec un grand H sur tout ce qu'on a fait au corps des femmes et tout ce qu'on a pu gagner comme droit pour les femmes. Voilà, ces décennies qui filent, on se dit, mais c'est génial, parce que tout au long de la vie, on peut encore rêver sa vie.
Laurent.
Et ça fait écho au fait que, oui, la vie des autres peut être très intéressante.
Ah là, elle est passionnante.
La vie d'Annette est absolument passionnante. Ce qui est passionnant dans le spectacle, c'est qu'Annette a 75 ans, ce n'est pas une professionnelle du théâtre, mais ce n'est pas une amatrice non plus. Et donc, ça participe même de ce qu'elle a été toujours dans sa vie, c'est-à-dire, elle n'a jamais été à la place à laquelle elle aurait pu occuper. Et même dans cette pièce, elle n'est ni la pro, ni l'amatrice de son propre spectacle. Un corps libéré dès le départ, une vie émancipée, une joie de vivre. Moi, j'ai vraiment trouvé ça formidable. Il faut quand même souligner le travail, parce que c'est du théâtre de documentaire, mais alors... Là, on arrive à quand même un très haut niveau, parce qu'au départ, c'est basé sur des entretiens que la metteuse en scène a fait avec Annette avant qu'elle passe sur scène. Là, c'est la révélation. La scénographie aussi est vraiment formidable, suffisamment étrange pour qu'on ait l'impression d'être dans un rêve éveillé, je ne sais pas. Ça ne vient jamais rien souligner de ce qui est dit. Moi, mon seul bémol, c'est la présence des quatre autres. Il y a deux danseurs.
Ah bah non, elle est capitale.
Deux danseurs et deux actrices qui ne servent à... rien.
Mais c'est pas possible, de dire ça. S'ils n'étaient pas là, ça serait un banal témoignage.
Mais oui, c'est toute la force du stand-up, là, pour le coup.
Ah non, j'ai toute la force.
Oui, ça serait un stand-up. Mais il y a quelque chose, je trouve, ou alors peut-être qu'ils servent à quelque chose, mais quelque chose est moins travaillé dans leur partition que la partition de Dana.
Quand ils la font danser, en plus, toutes les références culturelles sont formidables.
Les allusions à Doris Day ou Debbie Reynolds ou Jacques Demy, ça ne serait pas possible.
Si, tu peux mettre une vidéo, tu peux mettre autre chose.
Est-ce que ce spectacle va faire l'unanimité de la Tribune du Masque?
Oui, l'unanimité. Ce spectacle, il a eu le prix des lycéens au Festival Impatience en 2025.
C'est
important
de préciser. Festival
d'Impatience fait par le 104. Ils ont été fascinés par cette vieille dame qui est d'une jeunesse étonnante, qui est rebelle, qui se trouve moche et s'en fout, qui a des lunettes et s'en fout, elle trouve qu'elle a des gros seins. Elle
assume de ne pas être maternelle.
Exactement.
Ce passage-là est très, très fort.
Exactement. Elle quitte mari, enfant, et elle n'a pas de remords. Enfin, elle vit ça
mais elle
bien le mieux possible.
Elle l'explique très bien.
Donc, c'est une leçon de vie et de résilience formidable. Et moi, j'ai été bluffée par la mise en scène, parce que la metteuse en scène est quand même dans le public. Elle parle, elle relance constamment la comédienne. Et ça, ce dispositif, et au contraire, ces danseurs et comédiens donnent un côté aérien et magique. Je trouve que c'est comme un rêve.
Annette de Clémentine Colpin, pour tout public, à partir de 12 ans, je pense. Ça se joue donc à Avignon, au Théâtre des Dons, jusqu'au 26 juillet, avant une tournée dans toute la France, au Théâtre 71 de Malakoff, les 13 et 14 novembre, au Théâtre de l'Union à Limoges, les 19 et 20 novembre, suivront Toulouse, Lyon, le 104 à Paris ou encore Besançon. Il y a des dates jusqu'au printemps prochain, et comme d'habitude, vous en trouverez le détail sur le site du Masque. Retour dans la programmation du Festival IN avec les Perses d'Eschyle, mis en scène par Gwenaël Morin. Gwenaël Morin est un artiste associé au Festival d'Avignon pour 4 éditions. Cette année, après avoir mis en scène Shakespeare et Cervantes, il livre sa 4e création avec l'un des plus anciens textes du théâtre occidental qui dit les ravages de la guerre en faisant parler les vaincus. Il s'agit donc des Perses, défaits par les Grecs en 480 avant Jésus-Christ. Le spectacle est en extérieur, comme nous là, dans le jardin de la rue de Mons à Avignon. Deux cercles blancs ont été tracés sur le sol. 4 comédiens y entrent, en sortent ou le contournent pour déclamer un texte assez âpre. En dehors des platanes, aucun décor, pas de costume, une flûte à bec et un tambour pour accessoires. On pourrait parler de théâtre lo-fi. Gwenaël Morin a rencontré les 4 comédiens non professionnels des Perses dans le cadre d'un atelier libre à Avignon, atelier qu'il intitule « Venez m'aider à faire du théâtre ». Sandrine.
Ah. Déjà Quichotte l'année dernière, j'avais eu du mal, mais alors là, ça a été un supplice. Enfin, franchement, un ennui abyssal, je pense. Comme on peut s'accrocher à rien.
Ça dure 1h15.
L'1h15 la plus interminable que j'ai vécue. La seule chose à laquelle j'arrivais à m'accrocher, c'était à ma montre pour regarder combien de temps il restait. En fait, j'en veux même pas aux comédiens parce que j'ai souffert avec eux, j'avais presque de l'empathie. Non, mais c'est vrai. Autant aller acheter le livre de poche et lire tranquillement le texte, qui est fort intéressant sur la
guerre. Non, tu peux pas dire ça.
Ah si, le texte,
comédiens profèrent le texte. La dernière formidable.
Attends, Fabienne, laisse-moi finir. Moi, je trouve que tout est difficile à supporter. La déclamation du texte, souvent à 4 voix, un tambourin qui est incessant, un pipeau qui est crispant, une absence de mise en scène. Enfin. Il y a des déplacements. Les déplacements sont systématiques.
Tout
on fait
dans
tout le temps la même chose.
Il n'y a que de la mise en scène.
Ah, alors au secours. Mais vraiment, au secours, quoi. J'ai l'impression que les comédiens sont livrés à eux-mêmes et le public aussi. Non, vraiment, c'est une purge.
Vraiment. Est-ce que tu t'es senti seul, Laurent, toi ?
Ah non, 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 moi je me suis pas senti seul. Moi j'étais vraiment avec les comédiens.
Alors, tu t'es intéressé à la vie des autres ?
Pour une fois, manifestement, enfin, plusieurs
et
fois
des
quand
Perses.
Même. Non, alors ça ne m'a pas du tout intéressé.
Les Perses. L'armée
vaincue. Ah non, les Perses ne m'ont pas intéressé du tout.
J'ai fait.
Je m'en fous du sujet. Non, je m'en fous.
D'accord. Ah, tu te fous
j'ai fait une expérience de spectateur que j'adore, c'est-à-dire entre entendre et écouter. J'ai tout entendu, je n'ai rien écouté.
Oh, c'est trop un télo,
ah, non,
ça.
Non, c'est pas
ça,
un télo.
C'est trop
non, 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 non.
Appréciez le sens de la nuance.
C'est comment on décroche du sens du texte pour n'en garder que la voix,
mais
la profération.
Le...
Mais j'ai décroché du texte, mais ce n'est pas grave. Quand on décroche du texte, il y a autre chose qui arrive. Non, mais c'est vrai, je ne sais rien de cette histoire, je ne veux rien en savoir.
Pourtant, elle est finalement pas très compliquée. Hein.
Oui, enfin, il y avait des énumérations de noms.
Alors, déjà moi, j'aimerais juste vous livrer le résumé d'un spectateur en sortant de la pièce où j'ai entendu une conversation où ça disait « T'as vu quoi, les Perses ? C'est quoi l'histoire d'un fils qui a foutu la merde et c'est la guerre ?»
Bon, ben, voilà, mais ça suffit.
C'est un bon résumé.
Ça suffit pour comprendre véritablement. C'est vrai que j'ai complètement décroché du texte, mais j'ai trouvé ça absolument passionnant parce que j'ai regardé tout ce qu'il faisait, j'ai entendu véritablement tout ce qu'il faisait. J'ai regardé, par exemple, les deux cercles.
Mais t'as regardé la brique de lait aussi ?
Comprendre, c'est autre chose. Les deux cercles qui sont dessinés sur le sol, légèrement décalés, parce que tout est décalé dans cette pièce. D'abord, parce que c'est une pièce de vaincu. Et généralement, les vaincus n'ont pas le droit à la parole au théâtre. Donc ça, il y a déjà ce décalage-là.
Mais je croyais que t'avais pas écouté le texte.
Et autre décalage, c'est eux, c'est les acteurs qui m'ont vraiment passionné. Je préfère quand ils ne jouent pas trop, quand ils n'incarnent pas trop, mais quand ils sont là avec leur présence, leur visage brut, j'ai trouvé ça passionnant. Alors, je lisais dans la presse, et ils ne sont pas assez forts pour faire rendre compréhensible le texte. Mais c'est ça, justement. Ils sont suffisamment forts pour le faire oublier au moment même où ils le disent.
Mais alors, mais t'as retenu quoi de cette soirée ?
Pour moi, j'ai vu quelque chose où ça parle. J'écoute,
ça parle. Hein.
Et il y a une écoute flottante. C'est un spectacle qui permet de rêver. J'ai trouvé ça superbe. Mais vraiment, hein.
Fabienne.
Non, moi j'ai bien aimé le spectacle, même si j'ai des problèmes un petit peu avec le début et avec la traduction qui n'incite vraiment pas le public à s'accrocher à cette histoire de Perse. Pour reprendre ce que dit Laurent, même si c'est un peu un télo branchouille.
Merci.
Merci Fabienne.
Merci,
c'est vrai
Fabienne.
Que c'est hyper un télo branchouille.
C'est quand même, on s'accroche à la langue et c'est vrai qu'on l'entend magnifiquement. Mais moi j'ai été bouleversée parce que ça raconte aussi dans le monde d'aujourd'hui. On parle toujours de la démocratie grecque avec des sanglots dans la voix. Mais là, Eschyle nous démontre ce que c'est que la démocratie grecque. C'est quand même une attention à l'époque aux citoyens, même si je sais que les femmes, les esclaves étaient maltraités, tout ça. Cette attention qui est donnée pour la première fois à des vaincus, c'est tout simplement bouleversant. Et donc, moi, c'est ça que j'ai beaucoup aimé, même si je n'ai pas compris pourquoi on programmait les Perses entre nous dans le Festival d'Avignon, qui est censé... Ce que fait Gwenaëlle Morin, c'est toujours censé être en lien avec
la
langue
habitée. Qui, cette année, est l'arabe.
Là, Eschyle est grec. Les Perses ne sont surtout pas des Arabes. Mais en tout cas, moi, je conseille d'aller entendre. C'est une expérience. C'est une expérience sonore aussi.
Pierre.
Pas simple, parce que le spectacle, il est... Moi, je trouve objectivement, même si on n'est jamais objectif, évidemment, mais je trouve qu'il y a une forme de réussite dans ce spectacle. C'est-à-dire, je pense que son projet, il est complètement réussi. C'est-à-dire, il ne veut pas mettre... encore ce texte, il veut le mettre en voix. Et c'est pas une pièce théâtrale, c'est un poème épique. Donc je trouve que on a effectivement entendu parler de la faiblesse ou de la fragilité des acteurs et des actrices, mais je trouve qu'elle est, comme Laurent, fondamentale, parce que c'est grâce à elle que ces acteurs et ces actrices ne sont pas des interprètes, mais plutôt des passeurs du texte. Le problème, c'est que nous, en tant que spectateurs, on traverse pas des mers de bataille, on traverse un long tunnel, je suis d'accord avec Sandrine. Alors c'est peut-être lié à notre défaut d'attention, mais je crois que c'est quand même la faute de Gwenaëlle Morin, parce que moi, je trouve qu'un mythe, c'est ce que disait Roland Barthes, ça doit toujours venir nous parler. Là, ça nous parle de rien. Et comme tu disais, Fabienne, pour clore un peu ce débat et raccrocher un peu tous les wagons, c'est un peu symptomatique d'un festival qui prétend mettre la langue arabe et le monde arabe au centre, mais face auquel on semble toujours distant. C'est-à-dire, on est toujours avec le monde arabe et avec la langue arabe comme depuis une métaphore, en fait, avec les milieux de nuit, au début du festival, avec les Perses. Et donc, pour moi, c'est un spectacle qui est en soi réussi, mais qui est un symptôme de la défaillance de ce festival.
Les Perses, mis en scène par Gwenaëlle Morin, c'est dans le jardin de la rue de Mons, derrière la maison Jean Villard à Avignon, tous les soirs à 22h jusqu'au 25 juillet. On continue avec La Distance, pièce écrite et mise en scène par Thiago Rodriguez, directeur du Festival d'Avignon depuis maintenant 3 éditions. Le plateau est un disque rouge-ocre. Il y a des arbres morts, un rocher, quelques accessoires et un homme d'abord seul. Nous sommes en 2077 et la Terre s'effondre peu à peu. Cet homme s'adresse à sa fille, partie très loin, puisqu'elle a décidé de s'installer sur Mars. Le plateau pivote et cette fois, on est avec elle. D'un côté, le père est sur Terre, de l'autre, la fille est sur Mars et ils vont correspondre par messages vocaux, encore du son. Elle fait partie des oubliants, un groupe d'humains qui choisit de perdre la mémoire parce que ce serait le meilleur moyen de construire un monde nouveau, comme à partir d'une page blanche. Mais le père et la fille ont encore le temps d'échanger souvenirs, espoirs et visions du monde. La distance qui sépare ou rapproche les générations, la paternité, la mémoire, donc la transmission, sont quelques-uns des thèmes de ce beau texte, écrit et pensé pour et avec les deux interprètes, Adama Diop, dans le rôle du père, et Alison Deschamps, dans le rôle de sa fille, Fabienne.
Alors pour moi, jusqu'à présent, c'est le plus beau spectacle d'Avignon. C'est peut-être une rouerie d'ailleurs de Diago qui a réussi lui-même à faire le plus beau spectacle pour faire oublier une programmation un peu hasardeuse. Il est tout à la fois, il est à la fois intime et politique. Il raconte évidemment... les relations père-fille, comme tu l'as dit, qui sont si difficiles, si douloureuses, avec à la fin, finalement, l'acceptation du père, qui est une preuve d'amour magnifique, et Adama Diop, qui est un de nos meilleurs acteurs actuels, je pense, est bouleversant. Mais il raconte aussi la différence entre les générations et ces générations d'aujourd'hui qui sont capables de partir sur Mars en perdant tous leurs droits de citoyens, de femmes, de liberté, pour construire un monde nouveau, de sacrifier leurs droits individuels pour un monde neuf. Mais quel monde neuf ? Est-ce que ce n'est pas peut-être des relents de totalitarisme à venir ? Donc ce texte, il brasse plein de thématiques.
Mais d'ailleurs, il y a une très belle réplique de la fille qui dit à son père, vous, vous avez voulu changer le monde et oui. Nous, nous voulons changer deux mondes.
Mais quel tout monde le texte est magnifique.
Pierre.
Oui, moi aussi, j'ai aimé ce spectacle. Je trouve que depuis quelques années, Thiago Rodriguez va plutôt vers des spectacles assez populaires, des spectacles de fiction, sociétaux. Je trouve qu'ils n'étaient pas tous réussis jusque-là. Et je trouve que là, il a trouvé son endroit. J'aime bien la capacité du spectacle à faire croire à un monde futuriste, parce que c'est quand même pas rien au théâtre de faire de la science-fiction. Je trouve que d'un point de vue intellectuel aussi, c'est un spectacle assez stimulant. Moi, j'ai beaucoup aimé le discours de la fille, qui comporte quand même des vérités qu'on a très peu entendues. Je pense le renoncement à l'humanisme, l'opposition aux ruines aussi, dans lesquelles son père semble complètement enlisé, avec ce tourne-disque qui tourne en même temps que la tournette, ce tourne-disque qu'on a vu dans plusieurs spectacles d'ailleurs de Thiago Rodriguez. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment
réussi. C'est un discours dangereux
après,
quand même, non ?
Comment ?
Un discours dangereux quand même, celui-là.
Bien sûr, mais il est stimulant aussi.
Ah,
enfin,
oui,
pour moi, en tout cas, il m'a ouvert des portes. Après, je pense que le spectacle aurait pu être encore plus émouvant s'il faisait davantage confiance à la présence, à la vibration des corps, qui était quand même centrale dans ces spectacles précédents. Et là, je trouve que le spectacle est très beau, mais reste un tout petit peu trop narratif pour moi.
Oui, moi, Sandrine, je suis d'accord. Moi, j'ai beaucoup aimé ce spectacle, mais je pensais que ça allait me provoquer davantage de choses. Mais je trouve que, notamment à la fin, en fait, dans ce qui est dit, il y a un petit côté un peu psychologisant. Quand il dit,
il y a un côté didactique aussi.
Didactique.
Bah, c'est bien,
aussi,
c'est bon.
C'est pas négatif. Oui.
Mais quand même, je trouve que arriver à mélanger une dystopie à une histoire intime père-fils, on sent l'amour inconditionnel du père pour sa fille. Je trouve que cette comédienne qui m'a fait penser, moi, à la comédienne qui était dans L'Amour Ouf, la Mallory Vanek. Vraiment, elle a un air de Mallory Vanek. Elle est entre Mallory Vanek et Adèle
Exarchopoulos.
Merci beaucoup. Et vraiment, je trouve qu'elle est d'un naturel, elle incarne parfaitement sa génération. Et donc, ce dialogue, et puis aussi l'importance de l'écrit, c'est-à-dire que moi j'ai trouvé ça très intéressant, comment il passe des messages WhatsApp, en gros, à une vraie lettre d'écriture, et comment, en fait, la distance permet de se dire des choses qu'on ne serait jamais arrivé à se dire. Donc, en fait, il embrasse un nombre de sujets très importants, à la fois universels, qui, je pense, nous bouleverse tous.
Oui, comme vous l'avez tous dit, entre intime et collectif.
Ah,
et
oui,
vous n'avez pas parlé de ce morceau de Bossa Nova de Caetano.
Ah, magnifique.
Magnifique, dès qu'il y a de la bossa, de toute façon, ça suffit à mon bonheur, moi. Donc c'est vraiment parfait.
Ah bah alors une fille, un père,
plus
la bossa, et ça y est, c'est le trio gagnant.
Et vous pleurez.
Vous gagnez le tercé. Non, moi j'ai beaucoup aimé aussi le spectacle, alors que je partais avec une certaine crainte, parce que la dystopie, la science-fiction, c'est pas vraiment mon truc. Dès qu'il est question de galaxies lointaines et tout ça, je décroche, même je fuis tout de suite. Je ne veux pas voir un vaisseau spatial, c'est pas du tout mon truc.
Toi, t'es en
480. Mais là, il y a vraiment une sorte de dystopie domestique et surtout une dystopie épistolaire. Et c'est très très beau de les regarder, de voir celui qui envoie ou celle qui envoie le message et de regarder en même temps celle ou celui qui le reçoit. Et là, c'est vraiment un truc de mise en scène, c'est-à-dire être acteur, c'est aussi écouter l'autre. Et je trouve ça passionnant. C'est un mélodrame, en effet, psychologique. Et je trouve ça très très bien tenu.
Il arrive à mettre un suspense.
Et pour ça, pour tenir un mélodrame psychologique, il faut deux grands acteurs. Lui, il est impeccable, il est formidable. Et elle, que j'avais déjà vue dans une pièce de Guillaume Vincent,
La Tour de Constance,
c'était La Tour de Constance, elle était déjà remarquable. Ce qui est très beau chez elle et dans leur rapport, c'est qu'il n'y a aucun paternalisme entre une star du théâtre et une jeune qui arrive. Comme quoi, on peut jouer vraiment d'égal à égal sur un même plateau, alors même qu'on tient ses distances.
Il n'y a pas de paternalisme dans l'écriture non plus.
Aucun paternalisme
dans l'écriture, mais en même temps, elle a toute sa place.
Et il n'y en a pas parce qu'ils ont vécu tous les deux. La mère a disparu, est décédée, et donc ils avaient une relation vraiment père-fille totale. Donc je pense que ça joue aussi dans le fait qu'il n'y ait pas de paternalisme, vous voyez, parce que la mère était. Il avait les deux rôles.
La distance de Thiago Rodriguez, c'est à l'autre scène du Grand Théâtre Avignon. À Vedaine, vous avez l'air d'accord, jusqu'au 23 juillet. Le spectacle est ensuite en tournée à partir d'octobre à Malakoff, Strasbourg, Clermont-Ferrand ou encore Grenoble. Il y a des dates jusqu'en juin 2026. Vous en trouverez le détail, comme d'habitude, sur le site du Masque. Et j'ajoute que vous pouvez aller voir La Distance en famille. Metavix est accessible aux enfants à partir de 12 ans. Avec un peu de vent et les cigales toujours, on termine avec un seul en scène dans le Festival Off. Ça s'intitule « Les paillettes de leur vie » ou La paix des ménages, du verbe déménager. Un spectacle écrit et joué par Michael Delis. Michael a la quarantaine et il décide de faire un don du sperme. Le protocole suppose qu'il rédige une lettre pour exposer... Encore une lettre pour exposer ses motivations. Sa réflexion le conduit à observer ses amis, jeunes parents, plutôt au bout du rouleau, et à questionner la paternité et l'héritage à l'appui d'une histoire familiale où le père a déserté le foyer très tôt. Les paillettes de leur vie s'inscrit dans une trilogie réunie sous le titre « La trilogie du troisième type », trilogie qui propose des réponses intimes à cette question collective. C'est quoi un homme aujourd'hui ? Je précise qu'on peut assister à ce troisième volet sans avoir vu les précédents. Pierre ?
J'aime bien le côté apparemment un peu touffu du spectacle, le fait qu'il y ait pas mal de théâtralité, du stand-up, de la carnation, des petits moments silencieux, poétiques, un peu illustratifs quand même. Sauf que moi, je vois trop l'intention maligne derrière tout ça. C'est-à-dire, je vois qu'on veut m'amener vers une variété de choses que je m'ennuie jamais. Je vois le côté très feel-good de la chose. Alors, ça n'a rien de mal, évidemment, mais c'est un spectacle qui pourrait être grinçant, qui pourrait être politique. Moi, je m'attendais à quelque chose de très irrévérencieux. J'avais pas vu ses précédents spectacles. Et j'étais quand même assez déçu parce que j'ai trouvé ça finalement très politiquement correct, parce que à la fin, alors même qu'on a eu une complexité de choses qui ont été énoncées, eh bien comme 90% des spectacles de ce genre, le Michael Delis croit bon de fermer un peu le débat et de terminer avec une espèce de petite morale sur la nécessité de donner la vie, mais moi
mais
que j'ai trouvé
c'est pas du tout.
Ah ben non. Elle est magnifique, cette lettre. Il n'y a aucune morale dedans.
La lettre n'est pas magnifique.
Ah si.
La lettre, elle est sortie du courrier des lecteurs de Psychologie Magazine. Elle est pathétique.
Arrête.
Je rappelle que la lettre dont il s'agit est celle que Michael doit écrire pour exposer ses motivations à ceux qui naîtront grâce à son don de sperme.
Qu'est-ce que vous voulez mettre dans ce type
de lettre, si ce n'est des généralités humanistes et bienfaisantes.
Fabienne.
Moi, j'ai beaucoup aimé ce spectacle. Je connaissais pas bien Michael Delis, mais le titre du deuxième spectacle de la trilogie, La fête du slip, me mettait dans des états de gaieté hallucinants. Donc,
C'est le premier sexe. Hein.
J'ai lu le livre, j'ai lu la trilogie pour préparer l'émission. Je trouve ça très bien écrit.
Ah, oui.
Le premier morceau de la trilogie, c'est sur le genre, avec une mère qui apparaît aussi dans les paillettes, mais une mère complètement frappadingue, folle, sensuelle, permissive.
On n'est pas dans le cliché, là, visiblement.
Pardon ?
On n'est pas dans le cliché, visiblement, là.
Mais ça existe aussi des mères comme ça. Non, mais pourquoi pas on n'aurait pas le droit d'être possessive.
Pourquoi pas des clichés,
aussi,
effectivement.
Pourquoi il faudrait qu'on soit des mères banales et sans flamboyance. Là, cette mère-là, il l'adore, il lui rend hommage à la fin.
Magnifique.
Ça, c'est peut-être un peu un peu de trop, mais en tant que mère, j'ai été séduite par cet hommage au maire. Et moi, j'ai trouvé qu'il osait dire des choses. Par exemple, il y a un aspect documentaire sur la banque de sperme. Il dit des choses, la difficulté pour des homosexuels, par exemple, d'avoir un enfant et d'accéder à ce système. Je trouve que c'est plein. Il y a des longueurs, mais c'est jubilatoire parce qu'il mélange l'audace, l'autofiction. Il se donne et il rêve quand même à plein de problèmes qui nous concernent socialement et, aujourd'hui.
Et oui. Pendant ce temps, Laurent Goumard trépigne.
Non.
Mais oui, non, mais on a, il est politiquement
correct. La vie des gens
correct.
N'est pas forcément passionnante.
Mais voilà. Ça dépasse la vie des
ça,
gens.
Ça, tu trépignes pas.
Enfin, non, moi, je pense que je préfère Annette.
Non. Ah bah oui, je préfère Annette. Moi, j'ai ni aimé ni pas aimé le spectacle, en fait. Je m'en contrefous. Enfin, vraiment, ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui est assez virtuose sur scène, voilà, qui va donc faire vivre sa mère. Il va donc parler comme sa mère. Il va parler comme son agent en zozotant. Il va.
Bah
toutes
oui,
les figures. J'ai
mais,
horreur de
mais
ça.
Mais notre
toutes
métier,
figures,
Laurent, mais... c'est pas seulement ce qui nous intéresse nous. C'est penser à ce qui peut intéresser le public aussi.
Le
c'est
public
un partage,
aime ça.
Le théâtre.
Il est bien le seul, comme disait l'autre.
Jean Cocteau.
Jean Cocteau. Pour ne pas le citer. Non, mais je trouve ça très bien fait, très bien écrit, bien joué.
Ah.
Voilà, mais ça ne m'intéresse pas. C'est pas plus grave que ça. Je ne suis pas le spectateur de ce genre de théâtre.
Mais je crois que Sandrine l'est.
Ah, complètement. Moi, je trouve que vraiment, c'est un comédien et un auteur brillant. J'adore sa plume, j'adore sa manière d'incarner quand il fait l'endocrinologue.
Enfin, bah vraiment, voilà, il fait l'endocrinologue.
Non,
Sylvie
mais
Joly,
quand,
elle faisait
quand il
aussi
l'incarne, enfin bref, il est.
On en est
et
encore
alors,
là
moi,
aujourd'hui.
J'ai vu les trois. J'ai vu les trois. Je trouve que ce troisième, vraiment, il termine sa trilogie en beauté. Une trilogie, c'est un, c'est le genre, deux, la verge, trois, la semence. Ça se tient comme...
Ça se tient.
C'est
hein,
cohérent.
Ça touche voilà. Même le concept.
Et là, en plus, il arrive, c'est vraiment son meilleur, mais vraiment, il faut dire qu'il peut se voir tout seul. C'est pas grave si on n'a pas vu les deux précédents, on comprendra tout ce qu'il nous raconte. Mais je trouve que d'un point de vue visuel, corporel, émotionnel, c'est le plus abouti, le plus réussi. Ce qui lui arrive, son histoire, je suis désolée, moi je suis ni un homme, je n'ai pas de don, de sperme à faire, tout ce que tu veux. Et j'ai trouvé que c'était mais, hyper intéressant, que ça parle à tout le monde et que, encore une fois, la manière aussi dont il incarne sa mère, dont il lui rend hommage, dont il parle de l'absence du père, dont il parle des
mais,
amis aussi.
Mais Sandrine,
il parle très
est-ce
bien
qu'à un moment
amis.
Donné, on peut aussi quand même... penser l'interprétation. Est-ce que quand on fait des personnages, est-ce qu'on ne peut pas travailler les personnages d'une autre façon que de les faire par des petits trucs anecdotiques, la
mais
voix de serpent, la
fait,
gestuelle
Laurent, de mais... quel droit tu dis qu'il ne pense pas son interprétation?
Parce que j'ai l'impression de voir dans ce genre de spectacle toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on va faire le personnage. On va créer le personnage.
Mais c'est une expression maladroite qu'on a utilisée. Nous.
Non, c'est pas maladroit, c'est la vérité. C'est la vérité, véritablement. C'est ça qui me gêne.
Enfin, bon, voilà. En plus, je trouve qu'il est sans pathos, que c'est généreux, que c'est...
Sans pathos ?
Sans pathos,
non, il
n'y
a
possible.
Pas de pathos. Non, il y a...
Oh, dis-moi, la lettre pathos. À la...
Si, la lettre.
Mais non,
la
mais cette lettre, elle est magnifique.
Non, la lettre, pas la lettre, l'hommage à la mère.
Nous n'allons pas y revenir.
Et puis, c'est pas grave, le pathos, c'est bien aussi. Hein.
Michael Delis.
Elle est politiquement correcte, des fois aussi.
Michael Delis joue les paillettes de leur vie, plus les deux autres spectacles qui composent sa trilogie du troisième type au Théâtre Avignon Reine Blanche tous les soirs jusqu'au 23 juillet. Et cette trilogie est à l'affiche de la Scala à Paris du 9 septembre au 31 décembre et des dates sont prévues dans toute la France à Suresnes, Sarlat ou Conches en Ouche jusqu'en juin 2026. C'est l'heure de vos coups de cœur, soit autant de recommandations dans le dédale des 42 spectacles du in et des 1724 du off. Fabienne, c'est toi qui ouvres le bal.
Alors moi, je vous recommande chaleureusement La Sœur de Jésus-Christ d'Oscar de Souma Maria, qui est un magnifique spectacle qui raconte comment une jeune femme qui s'appelle Maria et qui a été violée décide de se venger de son violeur dans un village du sud. Alors, tout ça pourrait être simple, si ce n'est que c'est un poème épique où elle arrive à incarner quantité de personnages, à incarner et pas à faire, mon cher Laurent.
Donc, elle est bien aimable.
C'est d'une violence, d'une outrance, c'est admirablement écrit et surtout, c'est joué par un homme qui s'appelle Félix Van Orenberg et qui donne une intensité à cette vie de souffrance et de vengeance. À la fin, on ne sait pas réellement ce qui se passe. C'est un suspense. Je vous conseille ce spectacle parce qu'il y a une scénographie qui est éblouissante et il y a surtout ce jeune comédien qui est magnifique. Et le metteur en scène du spectacle, hélas, Georges Ligny, vient de mourir. Donc, il ne pourra pas assister à son triomphe à Avignon, parce que je crois que le spectacle marche bien. Il est mort fin juin. Donc, je conseille La Sœur de Jésus-Christ.
Au Théâtre des Dons. Pierre ?
Oui, moi, un coup de cœur pour le meilleur spectacle que j'ai vu pour l'instant dans le Festival INC, c'est Nexus de l'Adoration de Joris Lacoste, qui avait fait des formes très radicales. Hein. Ce spectacle est, je dirais, plus généreux, plus grand public que ses précédents spectacles. C'est quelqu'un qui essaye de faire théâtre de la totalité des choses, un peu comme Novarina, un peu comme Laura Vasquez dans le domaine de la poésie. Et le spectacle se jouera la saison prochaine en septembre au Maillon, ensuite en décembre à la MC 93, puis à Nantes et en 2026 à Clermont-Ferrand, Blois, Lyon et d'autres villes, espérons-le.
Nexus de l'Adoration,
Joris Lacoste.
De Joris Lacoste. Quant à moi, je vous recommande Le Journal de Maya, écrit et mis en scène par Cédric Aurin. Ça se joue tous les matins au Théâtre du Train Bleu jusqu'au 24 juillet. Alors, Le Journal de Maya, c'est le quotidien de Maya et Alicia. Elles ont 13 ans et elles sont en quatrième. Alors, autant Alicia est solaire, drôle, avec beaucoup d'aisance, autant Maya essaie de se dépêtrer avec ses questionnements, avec sa peur de décevoir, avec sa peur d'avoir peur. Dans le texte, il est glissé qu'aujourd'hui, un ado sur deux souffre de troubles d'anxiété, mais ça n'est pas du tout une pièce dossier sur le mal-être des adolescents. Et c'est vraiment le portrait d'une tranche d'âge où tout tangue en permanence et où l'amitié construit tout. Et j'y suis vraiment allée en me disant, waouh, c'est quand même assez casse-gueule de donner la parole à des enfants, à des ados de 13 ans, parce que je connais un tout petit peu le dossier, et les faire parler sans que l'auteur ne soit en surplomb, avec un peu de condescendance ou avec une tendresse un peu lénifiante. Eh bien, il n'y a rien de tout ça dans le texte de Cédric Aurin. On est toujours dans le mille avec des expressions très imagées de ces deux jeunes filles. Les deux comédiennes sont formidables, je donne leur nom, Louise Bénichou et Marion Brest. C'est donc Le Journal de Maya au Train Bleu tous les matins à 9h45 jusqu'au 24 juillet. Et les places coûtent entre 14 et 20 euros. Ça se jouera le 9 et 10 octobre à la Maison de la Culture d'Amiens et à la Comédie de Béthune du 9 au 14 mars. Pour le reste, avis au programmateur. C'est à toi, Laurent.
Moi, je vais rebasculer comme Pierre du côté du Huyn avec le spectacle qui avait fait l'ouverture du Festival d'Avignon, ses notes, de la capverdienne Marlène Montero-Freitas. Un spectacle peut-être inégal au tout début, mais que j'ai revu par la suite et qui tient véritablement toutes ses promesses. Un carnaval de défécation, de masques de poupées, de déhanchements maîtrisés, avec une version extraordinaire des Noces. C'est-à-dire Noces, qui est quand même un monument de la musique, qui fournit le texte à cette représentation. J'ai trouvé ça magistral. Une sorte de rêve éveillé percussif. Ça va se rejouer en France à partir de mars 2026. C'est comme ça toujours, hein, les programmations sont légèrement décalées. À Brest, Parc de la Villette à Paris, Clermont-Ferrand, la MC2 de Grenoble, absolument partout en France.
Sandrine.
Alors moi, je vous fais rebasculer dans le off pour aller découvrir le nouveau spectacle de Michael Hirsch, encore un Michael, mais Hirsch, qui s'intitule « Il y a de la joie ». C'est au Théâtre des Lucioles à 11h50. Et vraiment, vous sortez de là, vous êtes requinqués. Vous avez envie de tenir un petit carnet où vous allez mettre la moindre petite chose qui peut vous faire plaisir dans la vie. Parce que la quête de Michael Hirsch, c'est quelqu'un qui a un tempérament, il le reconnaît, qui n'est pas à la joie de vivre, alors qu'il est avec une femme qui l'est. Et un soir de 31 décembre, il se fait une promesse, il fait une résolution, et il dit « je vais essayer de trouver la joie ». Ce qui n'a rien à voir avec le bonheur, et ce qui n'a rien à voir avec les livres de développement personnel. Et donc, pour rechercher la joie, il va faire tout un certain nombre de démarches, et dont, bien évidemment, il va aller voir un psy. Et ce psy, il le fait avec la voix, et il le fait super bien, avec la voix de Lucchini.
Il le fait.
Et franchement, oui, il le fait. Alors, il imite, enfin, je ne sais pas quel est le bon terme.
Aucun mot ne va.
Aucun mot ne va. Mais en tout cas, c'est avec la voix de Lucchini qu'il l'imite très, très bien. Et vraiment, ces séances de psy sont absolument truculentes. Et donc, voilà, c'est comment il part pendant un an à la recherche de la joie. Je ne vous dis pas s'il va la trouver ou pas, parce qu'il ne faut pas tout dévoiler. Mais vraiment, la mise en scène est signée Michaël Chérignan et elle est très maligne. Et ce petit carnet qui fait penser à La première gorgée de bière et Votre plaisir minuscule, le fameux livre de Delerme, vraiment est extrêmement bien fait. Et je trouve que Michaël Hirsch, c'est quelqu'un qui a, avec ce spectacle-là, il change un peu de ce qu'il faisait d'habitude et il a raison de changer. Il était un peu dans la lignée d'un De Vos ou d'un Stéphane de Groot, a beaucoup joué sur les mots et tout ça. Là, on est dans autre chose, quelque chose de plus intime, quelque chose qui raconte, encore une fois, une vie personnelle, mais une vie personnelle qui peut parler à tout le monde et un sentiment de recherche de joie qui, je pense, on a, voilà, j'ose espérer qu'on essaye tous de tendre vers ça. Donc, allez-y, c'est généreux, c'est formidable.
Il y a de la joie de Michael Hirsch au Théâtre des Lucioles. C'est à vous pour vos coups de cœur. Bonjour.
Bonjour, je partage la sœur de Jésus-Christ, c'était de ça dont j'allais parler. Et du coup, je parle de Franz à la Scala Provence à 10h le matin. Donc, 5 comédiens, la compagnie BPM, Marc Granier qui a écrit le texte, et un talent incroyable, quoi. De 1h20 de mime, voix off, bruitage pour raconter le quotidien et le mal-être de Franz avec des flashbacks et le bruit de la vie, si bruyante autour de lui et si absente en lui. Les 5 comédiens parviennent à nous faire rire et pleurer ensemble, c'est magique.
Merci beaucoup pour ce conseil. Un autre conseil ?
Bonjour.
Bonjour.
Je recommande absolument Le Village de l'Allemand ou le journal des frères Schiller, inspiré d'un roman de 2008 de Boualem Sansal, qui y dénonce la haine, le fanatisme, dans une fiction qui se passe en 1994 et qui relie 3 événements dramatiques, la Shoah dont on ne parle pas en Algérie, les massacres perpétrés par le GIA durant la décennie noire et la mainmise des islamistes sur certaines cités de banlieue. Les acteurs sont prodigieux, la mise en scène est formidable. Courez vite au Petit Louvre à 19h10 et libération pour Boualem Sansal.
Merci. On voit que vous avez préparé vos interventions les uns les autres. Oui, bonjour.
Moi, je vous parle d'anciens collègues à vous qui sont Oud et Piron, qui jouent au Théâtre des Halles tous les après-midi à 16h15. Ça s'appelle Kevin. Ils avaient fait un premier spectacle sur l'orthographe, qui s'appelait La Convivialité, qui était un spectacle sur l'orthographe, mais qui est un spectacle éminemment politique. Et là, Kevin, ça parle de ce gamin qui est au fond de la classe, qui comprend pas tout parce qu'il n'est pas fait pour le moule de l'école. Et ça se transforme en une espèce d'anti-théâtre, conférence politique, sociologique, extrêmement drôle. Ils se sont fait accompagner par Antoine Defort. C'est un très bon moment et je pense qu'ils sont en train d'inventer une nouvelle forme. Je ne sais pas si c'est le théâtre de demain, mais en tout cas, c'est la société que moi, je veux pour demain.
C'est du spectacle-conférence. Excusez-moi, je me permets de prendre la parole parce que je l'ai vu au Théâtre du Rond-Point il y a quelques mois. Effectivement, c'est un excellent spectacle qui parle en fait du système de l'éducation nationale et qu'est-ce qu'il reproduit, qu'est-ce qu'il engendre. C'est très bien foutu.
Un dernier coup de cœur, si vous le souhaitez.
C'est un spectacle qui se donne au Théâtre de l'Arrache-Cœur et qui est intitulé « Mon père, ma mère et Sheila ». C'est un seul en scène. L'acteur Éric Roman a écrit un livre qu'il a adopté pour la scène. Un récit autobiographique qui nous plonge dans la France profonde des années 70-80. Drôle de vie quand on est né à la campagne, qu'on est homosexuel et qu'on a un père tyrannique, bon bougre, mais qui n'a jamais su aimer son fils. Mais le spectacle est drôle, très drôle. Éric Roman fait revivre avec humour et dérision toute une foule de personnages plus vrais que nature. Fan de Sheila, depuis toujours, on a droit aussi à de courtes scènes où il danse superbement sur des tubes de la chanteuse aux bottes roses.
Merci beaucoup pour tous vos conseils.
Et le livre était vraiment formidable, il est paru il y a quelques temps aux éditions Stock. C'était vraiment un super livre.
Fabienne Pascaud, Pierre Lesquelaine, Sandrine Blanchard, Laurent Goumard, merci d'avoir participé à ce masque depuis le Festival d'Avignon et merci au public nombreux d'être venus au Cloître Saint-Louis. C'était ton dernier masque en tant que critique, Laurent, puisqu'à la rentrée, tu deviens directeur des programmes de France Inter. Tu ne pourras donc plus être à cette tribune et c'est bien dommage. Donc merci d'avoir été si libre et parfois fou. À ce micro, dernier masque en tant que critique, mais les auditeurs auront le plaisir de t'entendre comme chef d'orchestre du Masque et la Plume dès la semaine prochaine et jusque fin août.
Je suis ton joker.
Guillaume Giraud a réalisé cet épisode du Masque et j'espère qu'il en réalisera d'autres. Merci Guillaume et je t'embrasse. À la technique au Cloître Saint-Louis d'Avignon aujourd'hui, il y avait Bastien Varigo, Mamat Leroy, Valentin Azan et Benoît Chapon. Enfin, un merci en majuscule à Ilinka Negulesco qui coprogramme et prépare le masque avec moi chaque semaine. Je vous souhaite un bel été à toutes et tous et vous donne rendez-vous à la rentrée pour de nouveaux masques le dimanche et pour Totémic le vendredi. Et je le redis, le masque ne prend pas de vacances grâce à Laurent Goumard aux manettes la semaine prochaine. Salut !